Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, bon matin et bienvenue sur les ondes de Canal M au Kiosque Magazine de ce mercredi 11 mars consacré à la santé, à la cuisine et à la maison. Pour la revue de presse aujourd'hui, on va être en binôme en fait, moi-même Sophie Chevens accompagnée de Safia Larabi. Allô Safia?
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous, donc petit tour de la programmation d'aujourd'hui. Safia, de quoi nous parles-tu?
Alors aujourd'hui, j'ai des articles intéressants sur l'objet, enfin, sur nos chats, sur les animaux de compagnie et ce qu'ils peuvent nous apporter, ainsi qu'un article qui parlera de l'alimentation et du secret du nouveau sirop des Québécois, le sirop de bouleau.
Super ça, le sirop de bouleau, après le sirop d'érable, chouette. De mon côté, il sera question côté santé. En fait, je vous parlerai d'un témoignage, je vous lirai un témoignage inspirant de trois personnes qui ont subi un accident majeur et qui ont continué à rester actives par la suite. Et puis, j'aurai aussi un petit article côté santé sur le système de santé en différentes questions. Et puis, enfin, côté cuisine, il sera question d'un autre parcours et d'une histoire inspirante, celle d'une entreprise québécoise qui a très bien réussi et qui s'appelle Prana. À tout de suite.
Oh. Mon chat, mon thérapeute. C'est un article issu du Châtelaine de février 2015, écrit par Chantal Etier. Ça pourrait tout aussi bien être un chien, un cheval, un lapin. Non seulement nos animaux de compagnie nous rendent heureux, mais ils sont aussi bénéfiques pour notre santé. Pendant que je pitonne sur le clavier de mon ordinateur, ma chatte se lèche les pattes en ronronnant. Selma est heureuse, installée le plus près possible de ma petite personne. Elle me suit partout dans la maison, répond à mes questions par une sorte de roucoulement, et la nuit, ronfle à côté de mon lit. Sa présence me calme. Son affection me touche, ses manies me font rire. Sans ma bibite à moustache, ma vie ne serait vraiment pas la même. Et surprise, depuis qu'elle vit sous mon toit, ma tension artérielle est revenue à la normale. Pourtant, rien n'a changé dans mes habitudes de vie. Qu'est-ce que vous dites de ça, docteur? Il y a 30 ans, on m'aurait rayonné. Mais depuis, plusieurs études ont démontré que partager sa vie avec un animal fait diminuer la pression artérielle, abaisse le taux de gras sanguin et apaise le rythme cardiaque. Chez les femmes, ces bienfaits seraient encore plus importants à partir de 40 ans. Tout a commencé en 1980 par une enquête sur la survie après un infarctus. En posant des questions à des patients, une chercheuse de l'Université du Maryland a découvert que ceux qui possédaient un ami à quatre pattes vivaient plus longtemps que les autres. Différentes recherches ont suivi. Aujourd'hui, l'American Heart Association reconnaît que les animaux de compagnie peuvent nous aider à réduire nos risques de troubles cardiovasculaires. Il y a plus. Leurs propriétaires visitent le médecin de 15% à 20% moins souvent, selon une vaste enquête menée en 2004 en Chine, en Allemagne et en Australie. On ignore si tous ces gens sont réellement en meilleure santé ou bien si leurs bêtes leur font oublier leurs bobos, mais les chiffres sont là. Aujourd'hui, partout dans le monde, de très grandes universités étudient les relations entre l'humain et l'animal, de même que leur effet sur la santé. Mieux, dans certains centres de soins, chiens, chats, chevaux, oiseaux et poissons permettent de réconforter de grands malades, de distraire des personnes âgées ou d'aider des enfants atteints de problèmes d'apprentissage ou de comportement. Et ça marche. Moins de stress et plus d'amour. Une des explications possibles, c'est que nos amis à poils et à plumes calment le stress et l'anxiété. En présence d'un chien, au comportement amical, notre taux de cortisol diminue. Notre cerveau émet des ondes liées à la relaxation et nos hormones de bien-être augmentent. Les propriétaires d'animaux et leurs enfants auraient une meilleure estime de soi, seraient plus sociables et moins préoccupés selon une enquête menée en 2011 par l'Université de Miami. Les animaux nous procure un amour inconditionnel, sans jamais nous juger, explique la docteure Sandra Berker, directrice du Centre sur les interactions humaines et animales de l'Université de Virginie. Depuis plus de 20 ans, la psychiatre étudie la puissance du lien qui unit l'homme et la bête. Selon l'une de ses recherches, le tiers des personnes qui vivent avec des animaux se sent plus proche d'eux que ses membres de sa propre famille. Fido et Minet rempliraient-ils un vide que les humains n'arrivent pas à combler? Le comportementaliste félin Daniel Filion le croit. Leur fidélité nous procure un sentiment de sécurité bien particulier, affirme-t-il. Au retour du travail, les trois quarts de ceux qui ont un animal de compagnie sont d'ailleurs accueillis par ce dernier et non par leur conjoint, selon l'American Animal Hospital Association. Jusque tout récemment, la psychiatre Sandra Berker emmenait son chien quand elle visitait ses patients au centre médical de l'Université de Virginie. Il percevait leur détresse, raconte-t-elle. Si l'un d'entre eux semblait déprimé, il s'asseyait tout près de lui et posait son museau sur le pied du malade. Dans le cas contraire, il gardait une certaine distance tout en restant amical. Mis à part les canidés, d'autres animaux font de très bons thérapeutes, comme les chats, qui excellent auprès des personnes âgées et patients atteints d'Alzheimer. Les chats et les chiens auraient-ils un sixième sens ? On a souvent entendu parler de ces toutous qui ronflent une partie du corps de leur maître sans raison apparente, jusqu'au moment où un cancer est découvert à cet endroit précis. S'agit-il de facultés extrasensorielles ? En fait, les experts savent depuis une quinzaine d'années que les cancers du poumon, du sein, de la prostate et de la peau dégagent des composés volatiles que Fido est en mesure de détecter. Les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont prouvé qu'un chien pouvait déceler parmi plusieurs échantillons de sang ceux qui contenaient des cellules cancéreuses. Est-il possible que ce flair dépasse le sens de l'odorat? En 2000, le British Medical Journal rapportait que le tiers des chiens vivant avec des diabétiques avaient réveillé ces derniers durant la nuit parce qu'un grave hypoglycémie mettait leur vie en danger. Le phénomène est aussi produit avec les chats. Ainsi donc, on vous conseille d'opter pour les animaux de compagnie.
« Bonheur n'est jamais immobile », un texte de Guillaume Roy paru dans le magazine Espace de mars 2015. On tient souvent les plaisirs de la vie pour acquis, mais lorsqu'un accident majeur survient, tout bascule. Malgré leurs limitations physiques, des rescapés rivalisent d'originalité pour continuer à faire du sport. Une leçon d'humilité, de persévérance et de courage. Le 18 avril 1996, à 46 ans, la vie de Steve Véro s'est soudainement figée dans son salon. Quelques heures plus tard, il apprenait qu'il était atteint du syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique qui se produit lorsque le système immunitaire d'une personne attaque le système nerveux périphérique. Il a passé 5 longs mois branché à un respirateur car son corps ne répondait plus aux commandes. Mes muscles se sont atrophiés, ce qui a laissé des séquelles permanentes et apparentes, raconte aujourd'hui Steve Véro. Au départ, il vit une période de révolte, mais avec l'aide du personnel médical et de sa conjointe, il reprend goût à la vie. « Quand j'aurai 55 ans, il ne faut jamais que je me dise « j'aurai donc dû », s'est-il dit à l'époque. C'est alors que commence la longue rééducation. Lors des premières séances de remise en forme, 5 minutes d'effort devaient être suivies de 5 heures de repos. Même si graduellement Steve a repris des forces, il restait incapable de marcher. Sa physiothérapeute lui a suggéré de s'entraîner en piscine. « Dans la piscine, il n'y a pas de pesanteur et je pouvais me tenir debout. Je pense sincèrement que c'est grâce à la piscine que je suis en mesure de marcher aujourd'hui », raconte l'homme de Saint-Félicien qui nage aujourd'hui 3 km par semaine. Adepte du vélo de montagne, avant sa maladie, Steve Véro a également trouvé le moyen d'enfourcher à nouveau sa bicyclette. Il me fallait juste un moyen pour monter et descendre du vélo. J'ai donc déniché deux petites roues qui me permettent de garder l'équilibre, explique-t-il en ajoutant fièrement que les roues ne touchent pas au sol lorsqu'il roule. Deux petites roues qui lui permettent de profiter de l'été et de rouler près de 2000 km par an. Steve Véro n'en veut pas à la maladie. Il mène une vie active et il s'implique au sein de plusieurs conseils d'administration dans le domaine de la santé et du transport adapté. Je mène une très belle vie, en partie grâce au Guilain Barré. J'ai des défis extraordinaires à relever et je suis capable de les relever, conclut-il. Innover pour améliorer son sort. Maniaque de planche à voile œuvrant dans le domaine de la manufacture de planches à neige dans les années 90, Marco Pilotto a toujours été un grand sportif. En janvier 2004, sa vie bascule lorsqu'il fait une chute banale à quelques centaines de mètres de son chalet. « Je me suis cassé le cou et je suis devenu tétraplégique », raconte-t-il. « J'ai alors décidé de relever le défi de vivre avec une incapacité physique. J'ai choisi de ne pas m'apitoyer sur mon sort et de me renouveler. » En devenant tétraplégique, la mobilité passe inévitablement par un fauteuil roulant. Je me suis rapidement rendu compte que la traction des fauteuils traditionnels n'était pas optimale et il y avait d'énormes lacunes, explique M. Pilotto. Avec une perte de force dans les bras suite à son accident, il lui fallait trouver un produit qui offrirait une meilleure préhension et une meilleure adhérence pour être capable de se déplacer plus facilement. Grâce à ses connaissances, acquises dans la pratique des sports de glisse, Marco Pilotto s'inspire des wishbones de planche à voile pour inventer un prototype de cerceau propulseur. Construit d'aluminium et recouvert d'EVA, une matière antidérapante grandement utilisée dans les sports nautiques. C'est le matériau de prédilection pour le confort et l'adhérence. De plus, c'est propre, esthétique et hypoallergène, ajoute M. Pilotto. Pendant 2 ans, il perfectionne le produit avec l'aide de sa fille, Gabrielle, avant de lancer la marque BB Raver en 2012. Depuis le lancement, l'intérêt pour son innovation est mondial. Les cerceaux, c'est l'essentiel pour la mobilité. Ils permettent aux gens de faciliter leur déplacement. Une personne en fauteuil roulant donne en moyenne 2400 poussées par jour et près d'1 million par année. Bref, ce produit est une nécessité pour les personnes avec un handicap. C'est l'interface entre mon fauteuil et moi. C'est ce qui me permet d'être créatif. Quand je sors de mon lit, c'est mon premier contact, mon premier souffle. C'est ce qui me permet de vivre, témoigne fièrement l'entrepreneur qui a également voulu donner du style à ses produits. Il y a une petite photo avec des cerceaux style armé. Un fauteuil efficace est la première étape qui permet à une personne en fauteuil roulant d'adopter un mode de vie actif. Lorsque les cerceaux BB Raver auront atteint une certaine notoriété, l'homme qui n'a jamais baissé les bras pense déjà à lancer d'autres accessoires sportifs pour les personnes à mobilité réduite. Selon Marco Pilotto, 2 attitudes sont possibles après un accident. Tu peux chialer ou tu peux bouger. Et ceux qui bougent ne chialent pas. Soutient celui qui pratique le ski de fond avec l'aide de son chien en hiver. Bonne nouvelle, il y a de plus en plus d'offres d'activités sportives pour les personnes handicapées, en partie grâce à des visionnaires comme lui. Repousser les limites. Défoncer les portes, repousser les limites et trouver de nouvelles façons de bouger fait partie du quotidien de Geneviève Allais, qui est devenue paraplégique en 2001 lorsqu'elle a chuté pendant une compétition de planche à neige aux US Open. Tout de suite après son accident, dans sa chambre d'hôpital, c'était elle qui remontait le moral à ses proches. « Je suis restée positive et j'ai vu ça comme un défi », dit-elle aujourd'hui. Dès cet instant, elle a fait le choix d'apprécier ce que la vie lui offrait et de saisir chaque occasion. « J'ai choisi de pratiquer le plus de sport possible, même si je dois parfois adapter tout mon équipement », ajoute l'athlète. Elle a commencé par essayer le ski alpin, elle s'est ensuite mise au vélo qu'elle a pu acheter avec un don de la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants, puis elle a essayé le ski de fond. On nous parle un peu plus loin aussi d'un premier saut qu'elle a fait en parachute et puis également de planche à pagaie. Et elle raconte, pour être plus à l'aise sur sa planche, elle a d'abord improvisé en se servant d'un siège pliable et l'été prochain, elle compte en utiliser un fait sur mesure pour optimiser ses poussées. Bref, un tas de sports et on parle aussi de surf et plus loin aussi de wakeboard. Bilan, la plus grande difficulté en fait pour pratiquer des sports de plein air est le prix exorbitant de l'équipement. Les athlètes avec un handicap doivent prévoir 5 000 $ pour la plupart des sports, voire plus, car l'équipement doit être adapté au corps et à la condition de chaque personne. Une chance que j'ai une tête de cochon, lance celle qui prend tous les moyens pour arriver à ses fins, même si ça doit prendre plusieurs années. Bref, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais ces 3 modèles inspirants démontrent qu'il ne faut jamais s'apitoyer sur son sort. On doit toujours continuer à rêver, à se lancer des défis et à tout faire pour les réaliser. Avec la bonne attitude, tout est possible.
La nuit s'impose sur le jour. Sur ma grande fortune, car mon cœur, quand vient la lune, se trouve seul devant lui-même, comme le vent s'amusait. Je ne suis pas sans regret. Pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes? Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Et jamais je ne désespère de trouver sur mon chemin quelque chose de malin, un peu d'amour. Bien frais, sous les cieux plus heureux. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Jour après jour, je poursuis mon bonheur.
Oh, oh yeah. Je poursuis mon bonheur, Daniel Bélanger, sur les ondes de Kiosque Magazine. Nous continuons avec un article 4 vérités bonnes à savoir, spécial nutrition, issu du Châtelaine de mars 2015 et écrit par Chantal Etier. Première règle, toutes les calories ne se valent pas. On nous le répète depuis 50 ans, une calorie est une calorie. Si on prend du poids, c'est que l'on consomme plus de calories qu'on en dépense. Conclusion, on peut manger un peu de tout, tant qu'on limite ses portions. Faux, s'exclame le docteur Martin Junot de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce concept désuet est de plus en plus contesté. Certaines calories ont plus d'impact sur le poids que d'autres. Nous le constatons auprès de nos patients obèses. En fait, la calorie qui vient d'une frite et celle qui vient d'un haricot ne sont pas égales. C'est une étude du pédo-endocrinologue américain David Ludwig, parue dans le journal... Excusez-moi, dans le Journal of the American Medical Association de juin 2012, qui a allumé la mèche. En suivant des groupes de patients en surpoids, le chercheur de Harvard a découvert que les aliments à indice glycémique élevé, pâtes, pain et riz blanc, poissons sucrés, biscuits et gâteaux, boissons sucrées bien sûr, et non poissons, pardon, font réellement grossir. Pourquoi ? Les glucides présents dans les céréales raffinées et les jus augmentent de façon abrupte le taux d'insuline. Or, cette hormone stimule la formation de cellules adipeuses, fait observer Michel Lucas, épidémiologiste, nutritionniste et chercheur à l'Université de Laval. Alors non seulement nous accumulons des graisses, mais comme cette énergie est stockée dans les cellules, le corps ne peut l'utiliser complètement, explique-t-il. Nous éprouvons donc une sensation de faim et de fatigue qui nous pousse à manger encore et encore. Mais il y a plus. Les céréales raffinées seraient nocives pour le cœur des femmes d'après une étude milanaise menée auprès de 47 000 adultes et publiée dans Archives of Internal Medicine en 2010. Les grandes consommatrices de glucides à index glycémique élevé, et oui encore eux, y étaient en effet deux fois plus à risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. On croit que les hormones mâles ralentissent la transformation des glucides en sucre dans le sang, alors que les œstrogènes pourraient l'accélérer. Il ne s'agit pas de bannir les glucides, mais plutôt de choisir les plus sains, ajoute Michel Lucas. Les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses, le riz brun et le quinoa constituent d'excellents choix. À limiter, les jus sucrés, le pain blanc, les pâtes, le riz blanc, les frites, les biscuits et les gâteaux. Deuxième autre conseil, moins un aliment est transformé et meilleur il est. À l'épicerie, ils occupent les meilleures places sur les tablettes. Ils ne coûtent pas cher et sont prêts à manger ou presque. On parle ici des aliments ultra transformés. Ce sont des produits qu'on ne trouve pas dans la nature. Confectionnés surtout à partir de féculents, de gras, de sucre, de saveurs artificielles et d'agents de conservation. Dit Jean-Claude Moubarak, chercheur en nutrition publique au Centre de recherche pour le développement international à Ottawa. On l'aura deviné, gâteaux, biscuits, croustilles, barres énergétiques et boissons gazeuses tombent dans cette catégorie. Tout comme les pains, trempettes et fromages industriels. Nous sommes directement concernés. Ces produits représentent les deux tiers du menu des Canadiens et près des trois quarts de celui des Américains, comparativement à un tiers pour les Français et les Italiens. Il semble que plus on consomme, plus le taux d'obésité augmente, rapporte l'expert. La solution ? Retourner aux vrais aliments qui poussent dans la nature. On essaie de nous faire croire que, grâce à la science alimentaire, certains produits enrichis de vitamines et de minéraux sont encore plus nutritifs que les vrais aliments. Or, les fruits, les légumes, les grains sont le résultat de milliers d'années d'évolution et on n'a pas encore réussi à percer tous les secrets dans leurs bienfaits. Dernier conseil, les aliments ont une densité nutritionnelle. Pourquoi mange-t-on n'importe quoi ? Souvent parce qu'on a du mal à s'y retrouver dans tous ces messages de santé publique. Aux États-Unis, le docteur Joel Fuhrman a mis au point un indice de densité nutritionnelle qui cote les aliments de 1 à 1000. Plus le score d'un aliment est élevé et plus il renferme de vitamines et de minéraux pour un nombre de calories donné. Regarde, n'hésitez donc pas à vérifier la densité nutritionnelle de vos aliments.
Brève côté maison, indémodable cocooning. La gourou du marketing Fat Popcorn, excusez-moi, a défini le cocooning comme le fait de se sentir bien à la maison. Elle avait prédit que ce phénomène serait tendance durant les années 90. Avec l'engouement pour les gadgets et la maison connectée, le besoin de se réunir à l'ancienne reste encore très présent.
Côté égalité, des expertes nous aussi. L'agence américaine Bloomberg News, spécialisée dans l'économie et les finances, veut voir plus de femmes citées dans ses articles. Les grands reportages ou enquêtes doivent désormais contenir au moins une citation d'experte et tendre la parité dans la mesure du possible. À quand une telle directive dans nos médias ? On est encore loin du compte. En 2010, le temps de parole des femmes, consultées comme spécialistes dans les journaux télévisés d'ici Radio-Canada et TVA, totalisait 1,1% de temps d'antenne.
Question. Ma chaise, mon ennemi. Travailler assis n'est pas bon pour la santé. Bon, Safia, je pense qu'on va devoir animer debout dès à présent. En effet, un lien se précise entre un mode de vie où la vaste majorité de nos heures éveillées se passent en position assise et un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, d'hypercholestérolémie et de douleurs lombaires, entre autres. Cela dit, avant de remiser notre chaise à roulettes, il faut savoir que le problème n'est pas la position assise, mais plutôt la durée de celle-ci. Le corps n'est pas fait pour garder une posture statique de façon prolongée, explique Marilyn Duval, physiothérapeute pour la clinique interdisciplinaire cinétique réadaptation. À long terme, la pression sur les disques et les articulations entraîne des douleurs cervicales et lombaires. Notre travail exige qu'on soit assise toute la journée, on multiplie les petites pauses toutes les heures ou plus souvent en allant chercher un verre d'eau ou en faisant simplement quelques pas autour de notre chaise. Mieux encore, on profite de ces pauses pour effectuer des étirements qui aideront à briser l'effet de la position statique et à activer notre circulation sanguine. Lorsqu'on est assise, on adopte la position la plus ergonomique possible, pieds bien à plat, coudes à la hauteur du clavier, yeux au niveau du tiers supérieur de l'écran, genoux, coudes et dossier de la chaise à un angle de 90 degrés.
Drôle d'égalité. Au Royaume-Uni, la différence d'espérance de vie entre les sexes s'amoindrit. En 1963, les femmes vivaient en moyenne 6 ans de plus que les hommes. En 2013, c'était 4 ans. Ceci s'explique d'un côté. Les femmes sont plus stressées et consomment davantage de tabac et d'alcool depuis leur arrivée massive sur le marché du travail. De l'autre, les emplois masculins sont moins dangereux qu'avant. Au Canada, l'écart se rétrécit aussi, alors que l'espérance de vie de Roméo croît plus rapidement que celle de Juliette. Pas exactement l'égalité rêvée. Les Québécois, femmes et hommes confondus, vivent en moyenne 81,8 ans. Et ils jouissent d'une espérance de vie parmi les plus élevées du monde.
Bon retour sur les ondes de Canal M au kiosque magazine du mercredi. Alors, on continue l'émission avec un article de Francis Alain paru dans le magazine Inspiro de l'hiver 2015 intitulé « Prana, collation savoureusement éthique ». Vedette montante dans le monde de l'alimentation naturelle au Québec, l'entreprise Prana ne cesse de faire parler d'elle grâce à ses collations à base de noix, fruits séchés et autres aliments biologiques, végétaliens et sans gluten qui séduisent de plus en plus les fins palais d'ici. Voici l'histoire d'une jeune entreprise de plus de 50 employés flirtant avec un taux de croissance annuel de près de 70% ces dernières années. Rien ne prédestinait Marie-Josée Richard à devenir entrepreneur. Après des études brillantes en biochimie et en physiothérapie, elle se met au yoga et accorde de plus en plus de place à la spiritualité dans sa vie. Elle part ensuite à l'aventure autour du monde pendant 5 ans. C'est lors de son séjour en terre indienne que sa vie bascule. Marie-Josée Richard a 22 ans quand elle ouvre un restaurant végétalien à Goa, au sud de Bombay, en Inde. Le succès est immédiat. Une centaine de clients répondent à l'appel chaque jour. En Inde, il était peu commun d'avoir accès à des produits frais comme de la salade dans des restaurants. Là-bas, les produits sont souvent offerts avec une sauce. J'ai donc simplement voulu proposer des aliments frais. Et ça a vraiment décollé, raconte-t-elle, encore surprise de son succès. La jeune femme d'affaires décide pourtant de fermer son commerce parce qu'elle trouve qu'il fait trop d'ombre aux casse-croûtes du village. Marie-Josée Richard admet avoir eu beaucoup de difficultés à côtoyer l'extrême pauvreté et la misère des habitants du quartier. Quand mon restaurant a commencé à devenir populaire, je me suis sentie mal parce que j'avais littéralement l'impression de voler le travail des gens, dit-elle avec une pointe de regret. Survient alors le coup de foudre. Marie-Josée Richard tombe amoureuse d'un jeune Israélien qui partage la même passion qu'elle pour le bio.
Le couple quitte l'Inde et revient au Québec avec l'espoir d'ouvrir son propre restaurant. Nous voulions avoir un restaurant avec pignon sur rue. Par contre, vu le prix des loyers, ce n'était absolument pas envisageable. Nous avons donc décidé de fabriquer nos produits et de les vendre dans différents établissements. Au début, nous devions travailler tous les jours, 7 jours par semaine, pas question de prendre de congé, se rappelle-t-elle. Dans la cuisine de sa mère, il prépare houmous, tzatziki végétalien à base de tofu soyeux, tartinade de noisettes au caroub, noix à l'érable et au kombucha, etc. Pendant plus de 5 ans, le couple de jeunes entrepreneurs vit chez la mère de Marie-Josée, où ils ne payent que 200$ de loyer par mois, afin de mettre toutes leurs économies dans le démarrage de l'entreprise. Nous avons ouvert Prana avec une somme de 10 000$, ce qui n'est pratiquement rien, souligne-t-elle. Ce n'est qu'après 7 ans qu'une institution financière consent enfin à leur prêter de l'argent. Prana décide alors de s'attaquer au marché des collations faites au Québec, secteur quasi inexistant à l'époque et pour lequel les perspectives de développement étaient tout à fait intéressantes. Il fallait trouver la niche. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de collations faites au Québec. Tout venait pratiquement des États-Unis. Pourtant, ça ne prend pas la tête à Papineau pour faire de bonnes collations santé, se plaît à souligner Marie-Josée Richard, excusez-moi, qui rappelle aussi que les produits dits naturels ne sont souvent composés que de maïs, de soya et de sucre. Au début, c'était fou. Non seulement je faisais toutes les recettes chez ma mère, mais je confectionnais moi-même à la main les étiquettes de nos produits et je les reproduisais grâce à mon imprimante personnelle, explique-t-elle. Puis un pâtissier vietnamien leur loue une partie de sa cuisine, ce qui les aide énormément. Je me suis ensuite mise à faire ma tournée des magasins d'aliments naturels au volant d'un affreux camion. De plus en plus de magasins voulaient avoir nos produits sur leur tablette, se souvient-elle. Les fondateurs de Prana tombent par la suite sur un distributeur qui marquera leur vie. Marc Périard, d'au mille et une saisons, leur fait vite comprendre qu'ils doivent refaire leurs devoirs. Avec franchise, il leur explique que leurs étiquettes ne conviennent pas du tout et que le prêt-à-manger, salade, gâteau cru, les confine à un marché très local. Message entendu. Prana accepte de faire le virage et obtient une subvention du service d'aide aux jeunes entrepreneurs et de la fondation Montréal Incorporation. Prana partout. Aujourd'hui, Prana compte 55 employés et la croissance moyenne de l'entreprise est de plus de 70% depuis les 6 dernières années. Marie-Josée s'occupe du marketing et de la comptabilité, tandis que son partenaire dans la vie, comme dans les affaires, gère les finances et la production. Les défis de croissance sont toujours nombreux. Pour nous, c'est comme une pyramide. Investir pour créer des ventes et ensuite investir dans la production pour garder la même qualité. Sans parler des innovations nécessaires, des ressources humaines, de la comptabilité et du service à la clientèle, explique-t-elle. Sobeys, Metro, Jean Coutu, Winners, Costco vendent maintenant leurs produits. Sans oublier les nombreux magasins d'aliments santé et leurs boutiques en ligne. En 2015, Prana veut conquérir le marché américain et international. Dans 10 ans, Prana rêve même de faire de l'intégration verticale, c'est-à-dire être présent du début jusqu'à la fin du processus manufacturier. Marie-Josée s'inspire de la philosophie appelée « bean to bar », qui signifie littéralement « de la fève à la barre ». Nous voulons nous promener un peu partout dans le monde et faire des projets d'agriculture au Pérou ou encore à Madagascar, explique-t-elle, pleine d'enthousiasme. Le problème avec le cacao, comme avec tant de produits en alimentation, c'est que la valeur ajoutée est dans la transformation. Or, nous voulons mettre sur pied des coopératives pour que les agriculteurs transforment eux-mêmes leurs récoltes et donc qu'ils s'enrichissent, résume la cofondatrice de Prana. Dans tous les cas, quand tu donnes, tu reçois, résume-t-elle. On ne saurait mieux dire.
Petit article issu de écrit par Radio-Canada, et issu du Huffington Post Québec. Il s'agit du sirop de bouleau. Après le sirop d'érable, voici le sirop de bouleau. Un couple du Manitoba se lance dans la production de sirop de bouleau à grande échelle, en s'appuyant sur une technologie développée par les érablières du Québec. À quelques semaines du printemps, Glenda et Rory Hart s'apprêtent à entamer leur plus importante saison de production jusqu'à aujourd'hui. Sur leur propriété de 100 hectares, près du Grand Marais au Manitoba, un labyrinthe de tubulures en plastique relie 2400 bouleaux en attendant que la sève commence à couler. Ce qui n'était, il y a quelques années, qu'un projet de retraite, est devenue une entreprise prometteuse qui ne fait que grandir. En 2010, ils se demandaient comment profiter des milliers de bouleaux sur leur propriété à l'orée de la forêt boréale. Ils apprennent qu'il existe quelques petits producteurs de sirop de bouleaux au pays. Mais le produit est rare, surtout en raison des défis de production. Ils décident alors de se lancer dans l'aventure. Ils achètent un système à osmose inverse et un évaporateur au coût de 80 000 $. En 2012, ils entaillent 800 arbres. Ils prélèvent la sève de façon rustique avec un seau au pied de chaque arbre qu'ils transportent à la main. Un travail ardu. Un sirop difficile à produire. Ils découvrent alors les défis particuliers de la production du sirop de bouleau. D'abord, il faut 120 litres de sève pour produire un seul litre de sirop, soit 4 fois plus que pour le sirop d'érable.
Quand même.
L'eau de bouleau brûle aussi facilement puisqu'elle contient beaucoup de fructose. Il faut la chauffer longtemps, à petit feu, et la température idéale est difficile à cerner. Le goût du sirop, entre-temps, change beaucoup à mesure que la saison avance. Le premier sirop de l'année a une saveur qui ressemble à celle du miel, tandis que le sirop produit plus tard a un goût qui se rapproche de celui de la mélasse. C'est un produit très cher. Les Hart produisent 3 différents sirops en 2012, doré, ambré et foncé. La promotion du produit commence surtout dans les petits marchés. Le plus grand défi, c'est de le distinguer de son cousin qui provient de l'érable. Le sirop de bouleau coûte aussi très cher, avec 25 $ les 100 millilitres. En fait, le sirop de bouleau est destiné à la fine gastronomie. C'est un ingrédient propice, entre autres, aux vinaigrettes, aux sauces et aux desserts. En quelques mois, Glenda et Rory Hart épuisent leur stock de la première saison. Ils décident en 2013 de trouver une meilleure façon de recueillir la sève. Ils se tournent alors vers les érablières du Québec. Ils découvrent là-bas un système de tubulure en plastique qui relie les arbres et qui transporte la sève vers un réservoir central. Un système qui fonctionne selon le principe de la gravité et de la succion. En 2014, les Hart installèrent 12 km de tubulure sur leur propriété et 1200 arbres sont reliés au système. Cette année-là, ils produisent 600 litres de sirop de bouleau. Avec cette capacité de production accrue, ils font la promotion du produit à l'extérieur du Manitoba. En janvier dernier, ils se rendent à San Francisco, où ils assistent à l'une des plus grandes foires alimentaires en Amérique du Nord. Le sirop de bouleau fait fureur. Une trentaine de distributeurs et de restaurateurs en commandent en grande majorité.
Changement de feuille. Oui.
Les objectifs de 5000 arbres. En 2015, Glenda et Rory Hart entailleront 2400 arbres. Convaincus que la demande ne fera qu'augmenter, ils comptent entailler 5000 bouleaux d'ici 5 ans. Le projet de retraite du couple est devenu plus qu'un simple passe-temps. En fait, leur entreprise pourrait s'avérer pionnière dans la production de ce sirop grande échelle au Canada, où les bouleaux et les hivers froids ne manquent pas. 10 choses à savoir sur le sirop d'érable. Le Québec est le chef de file de l'industrie de l'érable au Canada et génère 75% de la production mondiale. Le sirop d'érable est distribué dans 52 pays, incluant plusieurs pays d'Asie, où il jouit d'une popularité croissante. Le sirop d'érable est un antioxydant qui contient 54 polyphénols, incluant le québécol, un nouveau composé découvert récemment et qui est unique au produit. Le sirop d'érable est un bon sucre qui contient aussi des minéraux, 2 cuillères à soupe procurent 100% de la quantité quotidienne recommandée de manganèse, 37% de riboflavine, 18% de zinc et 7% de magnésium. 2013 fut une année record en termes de production et notre réserve nationale contient 60 millions de livres de sirop d'érable. Et enfin, il y a un total de 7300 producteurs d'érable au Québec et l'industrie crée 10 000 emplois chaque année.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labos dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige je vais. Je sortirai brunu dans la lumière et lui ferai le salut de la terre. Vois les fleurs ont recommencé dans l'étable. Chante la liberté.
C'était un titre de Kevin Parent, Hymne au printemps, un titre originellement de Félix Leclerc. Ça s'en vient tranquillement, le printemps, tranquillement. En attendant, je vous parle à présent, on retourne côté santé en fait avec le système de santé, trois petits points en question. Un texte de Francis Alain en collaboration avec Solveig Poirier-McClure est paru dans le magazine Inspiro de l'hiver 2015. C'est un sujet dont on entend parler tous les jours, de toutes les façons inimaginables. Normal, puisque le secteur de la santé représente à lui seul 43% des dépenses du dernier budget québécois. Dans le cadre de sa toute nouvelle série intitulée « En question », le magazine Inspiro a voulu savoir ce qui clochait dans notre système de santé, notamment en le comparant à celui de la Suède. Les découvertes qu'ils ont faites risquent de vous surprendre. Le système de santé en trois dates clés pour commencer. Alors, 1961, date à laquelle le Québec adhère au programme fédéral d'assurance hospitalisation, prélude au système de santé publique. Par la suite, en 1970, le gouvernement du Québec adopte la loi sur l'assurance maladie. Les CLLC sont créés. Bref, c'est l'instauration du système de santé publique au Québec. Et puis ensuite, la troisième date, 1980, explosion des coûts du système de santé, population vieillissante, médicaments, modernisation d'équipements, etc. Pourquoi cite-t-on toujours les pays scandinaves en exemple ? Parce qu'il y a 30 ans, le système de santé suédois était parmi les moins efficaces et les plus onéreux au monde. Aujourd'hui, il peut se targuer d'être parmi les systèmes de santé les plus performants de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Et cela, même si sa population est plus importante et plus âgée que celle du Québec. C'est dans les années 1980 qu'une série de réformes ont vu le jour en Suède, afin de résoudre des problèmes également présents dans notre système de santé. Solutions suédoises, pénurie de médecins, temps d'attente inacceptable, absence d'organisation, coûts exorbitants. Pour résoudre leurs nombreux problèmes, les Suédois ont trouvé des solutions qui pourraient tout aussi bien s'appliquer au système de santé québécois. La première, solution 1, infirmière au secours. Afin de réduire le temps d'attente, les Suédois ont décidé de donner un plus grand rôle au personnel infirmier, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement la pression sur le corps médical. Par exemple, en Suède, les infirmières et infirmiers ont plusieurs tâches, dont celle de prescrire quelques médicaments. Et si la solution à la pénurie de médecins de famille au Québec se trouvait dans l'intégration des infirmières praticiennes spécialisées ? Au Québec, on ne compte que 282 infirmières praticiennes spécialisées, surnommées les super-infirmières. C'est bien peu lorsque l'on se compare à nos voisins, entre autres avec l'Ontario qui en compte 3000. Quand même. Solution 2, informatisation du système de santé. Les Suédois ont mis en place un système informatisé offrant de nombreux services. Un service Internet qui oriente le patient vers le bon centre de soins, une informatisation des dossiers des patients et un système de prescription réalisé électroniquement. Qu'en est-il au Québec ? On en parle depuis 2007. 8 ans plus tard, il est finalement sur le point d'être implanté partout au Québec. Le projet qui était voué à l'échec selon le vérificateur général Renaud Lachance aurait repris de la valeur bien que la facture totale ait grimpé en flèche. En 2011, le projet d'informatisation du système de santé devait coûter 543 millions de dollars. Le gouvernement québécois chiffre désormais son coût total à plus d'1,5 milliard, soit près du triple du prix initial. Le projet baptisé Santé Québec, DSQ, devrait notamment permettre aux médecins de consulter tous les résultats de laboratoire de leurs patients ainsi que l'imagerie médicale. Ils auront également accès à la liste de médicaments de leurs patients, ce qui est déjà un grand pas en avant. Ce qu'on lui reproche, il s'agit d'un outil strictement réservé aux professionnels de la santé et les Québécois n'auront donc pas accès à leur propre dossier de santé. Le Canada fait-il vraiment mauvaise figure lorsqu'on le compare ? Oui, il fait mauvaise figure pour son accessibilité, son efficacité et sa qualité pour lesquelles il se situe à l'avant-dernier rang au sein des pays de l'OCDE. C'est le Royaume-Uni qui remporte la première place. Également, oui, pour son coût très onéreux. Le Canada est le troisième système de santé le plus coûteux parmi les membres de l'OCDE. Il coûte en moyenne 4 500 $ par habitant par année. Et également, oui, pour son nombre peu élevé de médecins quand on le compare aux pays de l'OCDE, rappelle le docteur Alain Vadeboncoeur qui souligne qu'il y a 40% plus de médecins en France et 60% plus de médecins en Suède qu'ici. Mais ce chiffre n'explique pas tout puisqu'il y a plus de médecins au Québec qu'ailleurs au Canada. En Ontario, par exemple, où il y a moins de médecins qu'ici, il est pourtant plus facile d'en consulter un. Pourquoi ? La question demeure entière.
Pour le bonheur, nous nous classons au second rang mondial pour tout juste près du Danemark. Selon l'échelle du Cantril, un indicateur de bien-être pour quantifier le degré de satisfaction de notre vie. Et bonne nouvelle, il semble que ce sentiment de plaisir augmente d'année en année chez les Québécois. Comme quoi, on est vraiment bien ici.
A Beautiful Body Project fait l'éloge du corps des femmes après l'accouchement. Faire la paix avec son corps. Un mandat lourd qui demande plusieurs années de travail alors que les standards de beauté sont pratiquement inatteignables. La photographe Jade Bill a donc entrepris de faire l'éloge du naturel et du bien-être à travers une série de photos qui montrent le corps des femmes après l'accouchement. A Beautiful Body Project met en valeur la relation mère-enfant en mettant à lumière les changements physiques que subissent les femmes en acceptant de donner la vie. Les vergetures laissées par la gestation de l'enfant sont perçues comme un signe de force et d'amour. Je souhaite inspirer les jeunes femmes à se libérer des souffrances causées par l'insécurité qu'elles ressentent physiquement et à embrasser leur beauté comme elles sont, explique la photographe sur son site web. Un projet inspirant et puis autre projet inspirant en fait, il y a également le projet Atlas of Beauty qui montre que toutes les femmes du monde sont belles. Un projet d'une photographe roumaine qui s'appelle Mihaela Noroc et qui rend en fait hommage à la beauté qui n'a pas de frontières.
Le dicton nous dit « Ce que femme veut, Dieu veut » et ça devient prouvé. « Happy wife, happy life » veut le dicton. Eh bien, ce serait vrai. Des chercheurs de l'université Rutgers au New Jersey ont étudié près de 400 couples mariés en moyenne depuis 39 ans. Leur découverte ? Plus une femme est satisfaite de sa relation, plus son mari est heureux, peu importe à quel point il est lui-même comblé dans son mariage. Une des hypothèses pour expliquer cet étonnant résultat. Quand une femme se sent bien, elle prend soin de son conjoint, ce qui adoucit les jours de ce dernier.
Peut-on rire du handicap et le caricaturer ? Nous avons posé la question à Laurent Savard, comédien, humoriste et papa d'un petit garçon autiste, avec un dessin de Cabu à l'appui. Un dessin pas drôle pour tout le monde, parce qu'il correspond à l'humour bête et méchant des sales gosses de Harakiri dans les années 70. Un dessin de Cabu qui ne me choque pas, mais qui ne me fait pas spécialement rire non plus. Le dessin en fait de Cabu est un homme avec la langue tirée, assis sur un fauteuil roulant et qui dit « on n'a plus que les histoires belges ». Un dessin pas drôle pour tout le monde non plus, parce que les parents, notamment dans le handicap de... parce que des parents, notamment dont le handicap de l'enfant est lourd, peuvent se dire qu'il est facile de rire de gens qui n'ont pas la capacité de répondre. Dans mon spectacle, je ne me moque pas de mon fils, mais de ceux qui rient de lui ou des situations qu'il provoque bien malgré lui. Mais on doit continuer parce que la caricature et l'humour font partie des fondamentaux de notre liberté. L'attentat ayant coûté la vie au dessinateur de Charlie Hebdo nous fait prendre conscience avec horreur que l'humour peut être risqué. Un ciment qui peut réunir les gens, mais aussi les diviser. On doit continuer à pouvoir rire de tout et d'autres prendront la relève pour parler de handicap, de religion ou de n'importe quel autre sujet de société. Certaines personnes vont se marrer en regardant ce dessin, d'autres non, d'autres encore se demanderont si elles le peuvent. Dans toutes les formes d'humour, il y a une pluralité de réactions possibles et heureusement, si nous devions tous rire des mêmes choses, nous serions en dictature.
Petit exercice bien-être pour entraîner sa bonté. L'empathie, ça se développe avec la pratique, affirment les scientifiques de l'Université du Wisconsin. Des volontaires ont fait 30 minutes de méditation de compassion par jour. Un exercice qui consistait à analyser leurs réactions en imaginant qu'eux-mêmes, un être cher ou un étranger, souffraient. Ensuite, ils devaient souhaiter que cela prenne fin. Au bout de 2 semaines, ils se sont montrés plus généreux que le groupe témoin dans une simulation mettant en scène des inconnus dans le besoin. La région de leur cerveau responsable de l'empathie était aussi plus active devant les images de souffrance. 50. C'est le nombre de minutes de course nécessaires pour brûler les calories d'une seule canette de Coke, selon le professeur Sarah Ayn Baik de l'université Johns Hopkins au Maryland. Lors de ses recherches, elle a constaté que les consommateurs faisaient de meilleurs choix pour leur santé quand ils connaissaient le temps d'exercice requis pour éliminer l'apport calorique d'un seul aliment.
Notre émission touche déjà à sa fin, donc nous tenons à vous remercier pour votre présence et pour votre écoute. Merci également à Jean-Sébastien Laliberté pour sa mise en onde et ses choix musicaux toujours appropriés. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre au numéro sans frais, le 1-800-361-0635 au poste 220, ou bien de nous écrire à notre adresse courriel canalm@vuesetvoies.com. Donc prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
Merci, bonne journée.